Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, le retour de Starsky Hutch. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Une série mythique en France qui envoie un souffle nouveau sur les séries policières des années 70. Une série avec un thème musical de Lalo Schifrin. Une série urbaine, âpre, dure, réaliste. C'est vrai que spontanément, si je vous dis ça, vous ne pensez pas à Starsky et Hutch, que vous voyez plutôt comme une comédie policière légère avec deux personnages sympathiques et amusants. Et vous avez raison, et tort à la fois. Navré, car Starsky et Hutch a initialement surpris par son ton désinhibé, par ses deux flics à la dégaine de voyous, mais à l'indéfectible amitié, ciment de toutes les histoires. C'est donc ce mélange entre réalisme et fantaisie qui a fait l'attrait et la différence dans cette création de William Blin. Et pour vous la raconter, je vais donc redevenir Starsky, et le scénariste Lionel Olinga, qui m'a fait le plaisir de se joindre à moi, va redevenir Hutch. Bonjour Hutch.
Bonjour Starsky.
Alors, on avait donc précédemment parlé de l'association entre William Blin, créateur et scénariste, et Aaron Spelling, producteur à succès, pour lancer cette série policière différente des autres. Nous sommes en 1977, après donc deux saisons fortes et réalistes, la série s'infléchit clairement pour trouver un ton un peu plus léger. Nous en sommes à la saison 3 avec un nouveau générique, un générique composé par Max Do. Alors oui. Tu vas me dire, mais non.
Mais si.
Tu fais une erreur, Mark Snow, ça peut pas être le Mark Snow de X-Files qui fait un générique de Star. Eh bien si. Et je vous dis qu'aussi, il a même fait des musiques pour Falcon Crest, mais ça, c'est un autre problème. Mais...
Et le générique de le thème de L'amour du risque.
Absolument.
C'est lui. Non, il bossait beaucoup pour Spelling à l'époque.
Ouais. Mais complètement, et voilà, et ça n'empêche qu'après, il a fait cette formidable musique pour X-Files. Donc, Mark Snow fait le générique de la saison 3, qui change aussi, tout comme la saison 2 était programmée plus tôt dans la soirée aux États-Unis vers 21h. La saison 3 aussi, c'est plutôt du 21h. Et les critiques concernant la violence des séries policières à la télé ont de l'influence directement sur la série. Et sur moi surtout, Starsky donc. Non seulement Paul-Michel Glaser affirme que la série se détourne de son style initial, mais il y réclame ses heures supplémentaires non payées. Il menace d'un procès, il menace de ne pas revenir pour cette saison 3. Boum. On pense même à remplacer mon personnage par une équipière féminine. Face à toi, Hutch. C'est l'officier Linda Baylor. Mais bon, finalement, Glaser, donc mon interprète, renégocie son contrat qui passe de 10 000 dollars par épisode à 40 000 dollars par épisode. C'est assez légitime parce que la série est initialement un succès, mais c'est pas contractuel puisque j'ose rappeler que quand on s'engage pour une série, c'est au même tarif pour un certain nombre d'années. Alors il gagne aussi plus de participation sur l'écriture de son personnage, c'est exactement ce qu'il voulait, dans le but justement d'insuffler un sens un petit peu plus profond au personnage, et pas simplement que ce soit les deux guignols, comme on peut dire. Alors n'empêche que la série devient moins violente, se repose plus sur des romances, sur des comédies. Dans le premier épisode d'une double durée, nous nous rendons sur Playboy Island. Voilà, l'île des Playboys, l'île de Playboy, c'est pas Hugh Hefner, mais presque. Et nous sommes en compagnie de John Collins pré-Alexis Carrington de Dynasty. Donc, je pense déjà que ça donne le ton. Est-ce que c'est vraiment ça en ce qui concerne ces épisodes?
Oui, il y a un vrai virage entre la saison 2 et la saison 3. Et encore une fois, le générique est parlant. C'est-à-dire qu'il reste plus que quelques plans de la première saison. Et c'est vraiment une série plus légère qui nous est proposée. Ça met vraiment l'accent sur la complicité entre nous deux. Ça, c'est le truc qui ressort quand on regarde le générique de la saison 3 de Starsky Hutch. On est dans une comédie policière assumée, en tout cas dans son générique, parce qu'on va voir que c'est un petit peu plus compliqué que ça. En tout cas, la promesse, c'est moins de violence, plus d'humour et encore un peu d'action quand même. Et ça se confirme, parce qu'une fois qu'on a passé le double épisode un peu vaudou hein, dans l'île paradisiaque, quand on regarde un peu les épisodes qui suivent, on voit vite l'évolution. C'est-à-dire que juste derrière, on a le droit à moi, donc Hutch, qui tombe amoureux d'une erotomane. Donc là, on est 3 ou 4 ans après Un frisson dans la nuit de Clint Eastwood, mais quelques années avant Liaison fatale, mais c'est déjà ça qui est annoncé. L'épisode d'après, c'est toi, Starsky, qui tombe amoureux d'une femme qui est surveillée par les fédéraux et qui va devoir lui mentir pour l'approcher, mais il est amoureux, mais t'es amoureux d'elle, donc du coup c'est compliqué. Et c'est pas la meilleure façon de commencer une relation. Et ça, c'est l'épisode qui s'appelle Le Grand Amour. Et on se retrouve piégé dans une ferme, isolé à un moment donné. On passe des vacances tranquilles dans une maison qui est prêtée par Dobé. Et là, on tombe sur une secte qui a des... Enfin voilà, ça commence là à partir dans des choses. On s'éloigne un petit peu de la série urbaine de la première saison. Et on a toujours ces missions undercover qui sont de plus en plus nombreuses. Et nos petites amies qui ont la fâcheuse tendance à se faire abattre. Je pense à mon ex-femme, enfin en tout cas l'ex-femme de Hutch, hein, qui est jouée par Véronica Hamel.
Ah, carrément.
Juste avant
Hill Street Blues,
qui, pareil, va... elle reviendra pas. Je ne veux pas spoiler, mais on ne la reverra pas.
On fait, a hein. compris, je pense.
Ça, voilà. La saison 3 comporte quand même quelques classiques. Il y a notamment un épisode qui m'avait beaucoup marqué, qui est l'épidémie. C'est un épisode en deux parties, avec une fin de première partie où, dans laquelle Hutch est à son tour touché, puisqu'il y a une peste qui est... en fait, il y a un type qui s'appelle Calendar, qui est un tueur à gages et qui est porteur de la peste. Et donc, tous les gens qui le croisent, voilà, il est en train de propager ce truc-là. Et Hutch finit par choper la maladie. Et la fin de la première partie, il est sur un lit d'hôpital et il ne lui reste plus que 48 heures à vivre. Alors ça peut paraître un peu bizarre aujourd'hui, mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, c'était un épisode par semaine. Ben et oui, quand on ça. A un épisode en deux parties avec Hutch, qui... et en même temps ça s'appelle Starsky Hutch, donc évidemment que...
On se dit bien que les personnages, enfin voilà. C'était quand même relativement rare à la télévision américaine qu'un personnage central d'une série meure en plein milieu.
Il y a quand même peu de chances qu'il meure, mais je me souviens que le petit gamin que j'étais... Eh ben, j'avais quand même hâte de savoir comment il allait s'en sortir.
C'est parce le but que de la série, l'air. D'un autre côté.
C'était bien fait, c'était bien fait. Et puis, c'est aussi dans cette saison qu'on a l'épisode où Starsky Hutch enquête dans un hôpital psychiatrique. Avec un Starsky qui fait le fou et qui, voilà, on est c'est aussi dans cette saison qu'il y a cet épisode-là. Et le truc aussi, c'est qu'on est finalement le virage plus marqué en saison 3 que dans les autres saisons. C'est aussi une conscience de la société qui entoure Starsky Hutch, qui est plus marqué, un peu plus qu'au début de la série. On a toujours le thème récurrent de la justice privée, qui est d'ailleurs toujours présenté comme une impasse. C'est-à-dire que systématiquement, que ce soit lorsque c'est Starsky qui est tenté lui-même parce que sa petite amie a été tuée, Prudhomme par exemple, même à la fin du deuxième épisode, Starsky ne le tue pas. Et le ramènera devant les tribunaux. On a vu que plus tard, d'autres séries franchiront le pas, d'autres personnages franchiront le pas. Mais pas Starsky Hutch, qui systématiquement montre bien que c'est pas une possibilité, en tout cas pas pour eux, ni pour les gens qui sont autour d'eux. Une fois qu'on a ça, il y a aussi, donc toujours cette conscience, il y a une journaliste qui va nous suivre, nous deux, ouais. Starsky Hutch, qui porte un regard extérieur sur nos actions en tant que policiers. Et ça, c'est pas rien, un regard critique. C'est l'épisode qui s'appelle Les Héros. On vient en aide à un enfant battu, un petit peu comme dans l'épisode de l'incroyable Hulk. Et c'est d'ailleurs un épisode qui est assez intéressant parce qu'il montre une scène qui m'a rappelé quelque chose. En fait, j'ai revu cet épisode-là il y a pas longtemps et on a Starsky Hutch qui sont dans les bureaux des services de police d'aide à l'enfance. Ils sont face à une femme qui leur dit, et en gros, ils sont en train de lui expliquer qu'il faudrait peut-être qu'elle se bouge un petit peu parce qu'il y a un enfant en danger. Et il y a un dossier qui a été déposé, ils veulent savoir pourquoi elle n'a rien fait. Et en fait, elle se tourne en disant, j'ai rien fait parce qu'en l'occurrence, voilà. Et elle montre.
La pile de dossiers.
De dossiers en disant, voilà, nous, on est, je crois qu'ils sont une dizaine, alors qu'il y a 4000 policiers en ville. Et elle dit, on est totalement débordés, on n'a pas les moyens d'eux. Et même plus tard dans l'épisode, quand elle va revenir, elle va dire, mais voilà, vous l'avez sorti d'affaire, ce gamin-là, mais ça suffit pas, en fait, parce que maintenant, il faut une psychothérapie, il faut de l'aide, et on n'a pas les moyens pour tout ça. Et cette scène-là, on la retrouve quasi à l'identique dans un épisode de Law and Order de la première saison, où Mike Logan et son partenaire de l'époque, le tout premier, vont, suite à la mort d'un enfant, voir... Pareil, une flic ou une assistante sociale en expliquant qu'un dossier a été déposé, il voulait savoir ce que la personne avait fait, elle dit, on n'a pas les moyens, elle dit, vous ne vous préoccupez plus de celui-là parce qu'en l'occurrence, il est mort, qu'est-ce que vous foutiez? Et là, la femme montre les dossiers. Donc c'est intéressant de voir qu'à 12-13 ans d'écart, Starsky Hutch, en tout cas, préfigurait déjà cette scène de Law and Order, alors que quand je me suis remis à repenser à Starsky Hutch, c'est pas immédiatement le lien évident.
C'est pas le lien évident, bien sûr. Mais la dénonciation sociale dans Starsky Hutch est très présente, visiblement. Pour la plupart des scénaristes, c'était aussi important d'insuffler ça dans la série, y compris dans une saison qui se veut plus romance, plus fun, plus, dans laquelle Bah, y a peut-être moins de poursuites en voiture, moins de violence, moins de coups de feu tirés, mais peut-être plus de résonance sociale, quoi.
Exactement.
C'est quand même un peu ça.
Exactement.
Nous sommes en saison 4, on retrouve le générique de Tom Scott, c'est le même, mais quand même, c'est une autre orchestration, donc en effet, là, si au niveau de la musique, vous dites, mais c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même compositeur, c'est le même morceau, mais orchestré différemment. Alors, l'épisode inaugural de chaque saison donne quand même, il faut bien l'avouer, un petit peu le ton des épisodes qui vont suivre. Alors, celui de cette saison 4 se déroule dans une boîte disco qui s'appelle le Fever. C'est histoire de surfer, évidemment, sur le succès colossal du film avec John Travolta. Donc, on va se retrouver, toi et moi, dans une boîte disco, c'est qui l'aurait cru. Et donc, par voie de circonstance, c'est ça le ton de la saison 4 de Starsky Hutch.
Mais oui, il y a de ça. Et encore une fois, il suffit de regarder le générique. Et là, on voit à quel point la série a basculé. C'est-à-dire que si on s'amuse à comparer le générique de la saison 1 et le générique de la saison 4, il n'y a plus grand-chose en commun, en fait. Que ce soit dans le look, que ce soit dans les attitudes, dans la musique elle-même, on a vraiment basculé. Et cette saison 4, en fait, elle va amplifier un phénomène qui est à peu près tenu jusqu'alors. Et là, clairement, c'est pas ma saison préférée.
Non, mais il faut quand même que je te dise aussi un truc. Là, quand même, il y a un truc que je comprends pas.
Ah, je sais. Je sais ce que tu viens de dire.
Pourquoi tu t'es fait pousser la moustache? Alors, dans cette saison-là, c'est-à-dire Hutch a une moustache, tu as une moustache, mais qu'est-ce que c'est que cette moustache? Qu'est-ce qui t'a pris?
Alors, est-ce que c'est un hommage à Lee Majors de L'Homme qui valait 3 milliards, qui lui-même, à un moment donné, s'est dit qu'une moustache, peut-être, ce serait une bonne idée, avant de la raser rapidement, puisque c'était pas du tout une bonne idée.
Ah, pas du tout, non.
Mais la mienne, enfin celle de Hutch, donc, hein, elle va rester jusqu'à la fin de la saison. Mais ça montre aussi...
C'est un détail. Ouais. C'est un détail, mais qui en dit beaucoup, quand
qui
même.
Qui en dit beaucoup, quand même.
Sur le fait, peut-être, que toi et moi... Nous en avions peut-être un petit peu marre de cette série.
Il semblerait.
Ça se voit un petit peu qu'il y a une relative lassitude, on va dire ça gentiment, dans nos personnages, et que là, vraiment, c'est peut-être un peu la saison de trop pour nous, quoi. Et qu'on aspire à autre chose.
Ça, on arrive au bout, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs épisodes. Alors, il y a toujours les infiltrations, donc disco, pour le premier épisode, l'hôtel de luxe, le milieu de la mode, les histoires d'amour avortées, ultimatum, où toi, Starsky, tu blesses une femme... et tu tombes amoureux d'elle. Moi, Hutch, je vais tomber amoureux d'une chanteuse qui bosse pour un truand. Et puis, bien souvent, on a l'impression de revoir en fait des ressucés d'épisodes qu'on a déjà vus et pas nécessairement en mieux pour tout dire. Donc, le cœur n'y est plus vraiment. On a parlé de mon look, hein, les cheveux plus longs, la moustache. Ni fait ni à faire.
Tu reconnais qu'en effet, c'était pas la meilleure idée.
Il faut reconnaître. Et il y a encore des bons moments, évidemment, il y a encore, et puis la magie opère encore entre les deux, et puis Huggy est là, et Dobé également, mais quand même, on sent que la fin arrive. Alors, en repensant à cette saison 4, quand j'étais gamin, il y a un épisode qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle Vengeance. Et cet épisode-là, Vengeance, il est réalisé par Sutton Rowley. Je ne sais pas si je le prononce bien, je crois que c'est ça, Sutton Rowley. Et dans cet épisode, nous sommes assignés tous les deux à la protection d'une femme dont l'ex-petite amie assassine ses nouveaux amants. Elle passe son temps, elle est souvent en discothèque et elle fait des rencontres. Et ça se termine très mal, puisque une fois la nuit passée, il y a un homme vêtu d'un imperméable, d'un chapeau, qui entre dans la maison. Elle lui ouvre d'ailleurs, qui avance vers ses victimes avec un long couteau, et il a cette phrase qu'il répète avec une voix assez... Vous, et il avance et il plonge sur ses victimes en les poignardant. C'était très très flippant.
Ah oui, c'est pas rigolo du tout.
Ah non, c'est pas rigolo du tout. Et en fait, voilà, on va le dire, c'est un démarquage de psychose.
Clairement.
Et voilà. Et le truc, c'est que je parlais de Sutton Rowley. Parce qu'à la mise en scène, il y a vraiment des effets qui fonctionnent très très bien. J'ai revu des bouts d'épisodes là pour cette émission. Et vraiment, alors est-ce que j'étais marqué étant enfant, mais ça reste flippant, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'en ai vu. Et ça, il y a un truc très malsain dans l'approche. Et en fait, Sutton Rowley, j'ai regardé un petit peu ce qu'il avait fait, et il s'avère que c'est le réalisateur d'un téléfilm qui m'a traumatisé, mais pas que moi, toute une génération, tous ceux qui étaient devant TF1 un certain dimanche à 18h. Voilà, je vois que tu suis. C'est le triangle de Satan, le triangle du diable.
Le fameux triangle du diable.
Le fameux triangle du diable.
Avec Doug McClure et
Kim Novak.
Kim Novak, qui qui, grâce à l'atelier d'image, est sorti il y a peu de temps, il y a un an, je crois, en DVD, que je vous recommande absolument. C'est un téléfilm totalement flippant, mais c'est vraiment un truc totalement traumatisant que, comme ça, TF1 a diffusé deux fois le dimanche après-midi, parce que, bon, il n'y avait pas de violence, littéralement, mais il y avait une angoisse, puisque c'est carrément un bateau qui est retrouvé totalement vide de tous les gens qui étaient à l'intérieur, sauf une femme seule, qui est désemparée, etc. Mais on ne va pas dire ce qui se passe à la fin, mais visiblement, il y a des trucs surnaturels qui se sont passés sur le bateau. C'est la seule survivante. Doug McClure va l'aider. Et jusqu'à la fin, il y a un twist final qui est terrifiant, il faut bien
terrifiant.
Dire. Absolument terrifiant. Je conseille vraiment d'acquérir très vite ce DVD si vous ne le connaissez pas. C'est quand même un petit chef-d'œuvre de l'histoire de la télévision et des téléfilms fantastiques qui pullulaient quand même à l'époque à la télévision américaine. Et pas que, mais quand même, il y avait beaucoup de téléfilms fantastiques du même genre. Et donc, c'est le même monsieur qui a réalisé ça. Donc, c'est pas étonnant parce qu'en plein milieu de sa saison 4, qui est rigolote, marrante, décalée, avec du disco, avec des choses comme ça, il y a d'un seul coup un épisode dans lequel c'est psychose avec un tueur, quoi.
C'est ça.
Le dernier épisode, quand même, de cette saison 4, que la vengeance est douce, me voit, moi, blessé, mourant à l'hôpital. Il était initialement question que je meure vraiment, d'ailleurs, et que ça soit mon frère, Nick, qui apparaît dans une dizaine d'épisodes plus tôt, et incarné par John Hertzfeld, qui prenne ma place dans la saison 5. De cette façon, la série n'aurait pas eu à changer de titre. Ça aurait toujours été Starsky et Hutch.
On sait que c'est compliqué quand une série porte le nom d'un personnage pour changer de nom.
Voilà, certains sont bien placés pour le savoir. Donc voilà, donc ça aurait été une bonne idée, puisque moi j'avais plus trop envie finalement de faire cette série. Eh ben non, la série n'a pas été renouvelée. Elle a terminé 36e dans les audiences annuelles pour cette saison-là. Et le 15 mai 1979, c'était le dernier épisode de Starsky Hutch. Alors moi, Starsky, enfin, je veux dire, Paul-Michael Glaser, je suis passé de l'autre côté de la caméra. J'ai réalisé The Running Man, le film futuriste avec Arnold Schwarzenegger, qui était placé d'ailleurs sur le Prix du Danger, le film français. J'ai aussi mis en scène pas mal d'épisodes de séries, de Miami Vice à Amazing Stories, en passant par Esprit Criminel, tout récemment, tout en continuant de jouer dans des séries comme Ray Donovan, par exemple. Et pendant Starsky Hutch, j'ai même été le grand Harry Houdini dans un téléfilm qui est maintenant reconnu comme la meilleure adaptation possible de la vie du grand illusionniste. Bon, et toi, Hutch, qu'est-ce que t'as fait?
Ben moi, Hutch, enfin, je veux dire David Saul, j'apparais dans des mini-séries, Sandra, princesse rebelle, les filles du Lido, le secret du Sahara,
mieux,
Casablanca,
pas mal,
et plus récemment dans un inspecteur Lewis.
Bien.
Mais j'ai été aussi la vedette de Salem's Lot d'après Stephen King.
Oh là là, oui, alors ça.
Réalisé par Tobe Hooper.
Alors ça, respect.
Et puis j'ai goûté à la réalisation après trois épisodes de Starsky Hutch. J'ai aussi réalisé un épisode de Miami Vice.
Ouais, non, alors là, franchement, respect. Là, tout va bien. Tout va bien. Notre carrière est plutôt bien. Pour Aaron Spelling, Starsky Hutch va être le passeport pour d'autres séries policières. Soit en 1975, les fameux Charlie's Angels, les drôles de dames en 76, Vegas, dont on a parlé avec Robert Urich, en 78, et puis pour l'amour du risque en 79, Matt Houston en 1982, T.G. Hooker, plein d'autres moins connus en France. Il changera encore de style dans les années 80 en créant Dynasty, puis il lancera la mode des séries dramatiques avec des jeunes dans les années 90, et ça c'était l'époque de Beverly Hills. Il est temps maintenant d'aborder un sujet enthousiasmant et frustrant à la fois, la série en France. Lancée le samedi soir en 1978, puis le dimanche midi en 1980, c'est là où la série est devenue méga populaire en France, Starsky Hutch restera des années durant le rendez-vous dominical, détrôné uniquement par Walker Texas Ranger, et puis à certains moments par Un flic dans la mafia, et à une époque aussi par Star Trek. Ils ont essayé quand même de balancer Star Trek, mais sans grand succès. Un tel succès sur TF1 que d'ailleurs M6 fit l'acquisition en 1987 de saisons que TF1 ne diffusait plus pour les programmer en même temps. C'est dire franchement si c'était... Voilà. Alors donc, en France, on a droit au générique à une chanson de Lionel Leroy pour remplacer la musique de Lalo Schifrin. C'est un choix musical. Et là, par contre, on va redevenir plus sérieux, il y a eu un doublage extrêmement discutable. En effet, Il ne s'agit pas ici de blâmer Jacques Balutin et Francis Lax qui insistent vraiment très lourdement sur l'humour, mais surtout des modifications profondes faites dans la version française et qui en changent absolument le sens. Bon, la pratique était assez courante dans les années 80, nos diffuseurs insistant auprès des sociétés de doublage, soit pour couper, soit pour édulcorer des contenus. Si vous vous souvenez du Previously consacré à Dynasty, vous pouvez encore le réécouter d'ailleurs, il était question de la scène où Stephen Carrington fait face à tous les autres Carrington et où on dit clairement que Stephen is gay, et dans la VF c'est devenu Stephen est malade. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Pour Starsky et Hutch, la censure a suivi exactement le même chemin. Il y a un épisode de la saison 3 qui s'appelle Death in a Different Place, en français c'est Les jours se ressemblent. Et il met en scène la mort d'un policier assassiné dans sa chambre d'hôtel, une chambre d'hôtel assez sordide d'ailleurs. Et enquêtant sur ce crime, Starsky et Hutch découvre dans la VF qu'il menait une double vie, qu'il trompait sa femme ou qu'il avait des faiblesses. Pourtant, on l'a vu avec des filles dans cette chambre, nous dit-on dans la version française.
Tu ne peux quand même pas croire que Blaine
Starsky
trompait sa femme régulièrement.
Le patron de l'hôtel a dit que Blaine avait une chambre ici depuis plus d'un an.
Bon, c'était probablement pour ses enquêtes.
On l'a vu pourtant avec pas mal de filles dans cette chambre depuis un an. Il y a les témoins qu'on veut.
C'était peut-être une couverture.
De Bédic, non.
Eh ben, je suis pas d'accord.
Tu peux être d'accord ou pas d'accord. Blaine est mort, tu vois.
C'est pas la peine de tout lui raconter.
Tu parles en tant que flic ou ami de la famille ?
Eh bien, Maggie, nous sommes désolés de vous apprendre que John, votre mari, est mort et qu'en plus, il vous trompait. Enfin, je peux pas lui dire ça.
Sauf que, ça, c'est la version française. Dans la VO, on dit carrément complètement autre chose. On dit qu'il venait dans cette chambre toujours avec un homme, toujours avec le même, et qu'il était homosexuel.
Well, he probably was undercover. Until 6 months ago, he was in this room with the same guy. Recently, there have been others. He could have been undercover.
Dobie says no.
Well, I don't buy that.
I'll buy it or not, Blaine's dead. And he was with another man.
There's no reason to tell her.
Are you talking as a cop or a friend of the family?
Well, Maggie, we're real sorry to inform you that John is dead, and we hate to inform you also that he was gay. I can't do that.
Well, then I'll do it.
Clac. Clairement, on change totalement le sens de tout un épisode pour des raisons morales, ni plus ni moins. C'est vraiment ça. Et dans un autre épisode, Manchild on the Street, les rues sont à tout le monde, Starsky et Hutch font face à un jeune flic incarné par W.K. Stratton, un acteur que l'on connaît aussi pour les têtes brûlées. Mais ça, c'est un épisode qui t'a marqué. Est-ce que tu peux nous raconter ?
Et parce que c'est une scène qui m'avait toujours intrigué. La première fois que je l'ai vue, il y avait quelque chose qui... Pourtant, j'étais gamin, mais il y avait un truc qui ne marchait pas dans cette scène. Stratton, donc, vient d'abattre Jackson. C'est un homme noir, ami de Starsky Hutch. Il l'a abattu en pleine rue. Les deux policiers arrivent sur la scène de crime, réclament des explications. Stratton tente de justifier. Et voilà, on sent que ça ne tient pas trop la route. D'autant qu'une femme noire, témoin de la scène, raconte ce qui s'est véritablement passé. En l'occurrence, que l'homme abattu ne représentait aucune menace, qu'il avait les mains en l'air. En contradiction totale avec la version du policier, donc. Starsky interroge Stratton. Elle dit la vérité. En version française, Stratton répond « Oh, elle a bu un coup de trop. » Ce qui lui vaut une gifle retentissante décochée par Starsky.
Et le type, là-bas, celui qui est allongé, eh bien, il est venu vers moi et il a mis ma vie en danger, c'est
qui
tout.
Qui est-ce qui menaçait votre vie ?
Mais lui, le type là qui est allongé.
Il s'appelle Jackson Walters.
Ah bon, bah, très bien, il est venu vers moi, il m'a menacé et puis j'ai présumé qu'il était armé.
Vous avez présumé qu'il était armé, vous avez tiré.
Oui.
Il ment. Moi, j'ai tout vu. Il allait tirer sur cet homme-là. Et son ami s'est interposé en criant « Tirez pas !» Et c'est tout. Il l'a pas menacé une seconde.
Elle dit la vérité.
Elle a bu un coup de trop.
Et en fait, cette gifle, elle est totalement disproportionnée. J'arrivais pas à comprendre pourquoi Starsky, qui certes est impulsif, va d'un seul coup décocher un coup comme ça, vraiment violent, ça claque. C'est pas dans le caractère de Starsky. Elle a bu un coup de trop, il le gifle, il y a un truc. Et... quand j'ai acheté les DVD, quand j'ai compris à quel point, des années plus tard, quand j'ai compris à quel point il y avait une différence entre la VF et la VO sous-titrée, je me suis souvenu de cette scène et je me suis dit, tiens, mais au fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc là-dedans ? Donc, je pensais que c'était de la saison 1, je cherche un peu, je finis par retrouver saison 3. Et je mets l'épisode, et alors ça donne autre chose. Et d'ailleurs, si vous regardez Starsky Hutch et que vous avez la possibilité de mettre les sous-titres français, mettez-les, parce que les sous-titres correspondent à la version originale, en fait. Et du coup, ça permet vraiment de voir le distinguo. Il y a plein de choses. Mais spécifiquement, là, on a ce moment très bizarre où donc Starsky interroge Stratton, elle dit la vérité, et en VO, il répond pas « elle a bu un coup de trop », il répond « la négresse ment ». Et là, il se prend une gifle réflexe de Starsky, et là, on comprend, en fait. Et ça fait sens.
She wasn't threatening nothing.
She told him the truth. The nigger's lying. Ambulance. You wait here.
Un autre exemple, hein, parmi d'autres, une femme qui était victime de son père maltraitant en VF. Quand on s'intéresse à la VO, on découvre qu'elle était en fait victime d'inceste. Donc on est... Voilà, il y a ce besoin de descendre et de baisser les choses pour les rendre, je sais pas, plus digérables.
Plus digérables pour un public qui regarde la série le dimanche après-midi, qui va pas se poser de questions. Ah ouais. En tout cas, c'est ce qu'on pouvait s'imaginer à l'époque. Bon, enfin, outre des invitations dans les festivals, il y a quand même un des personnages de Starsky Hutch qui est venu dans une série française, à savoir c'est Huggy les bons tuyaux.
Oui.
Et ça, s'il est venu, c'est parce que ben, vous l'avez invité à venir. On en a parlé déjà dans le preview-ci qui était consacré à la série Shérif, mais tout de même, d'avoir, toi, après avoir vu tous les épisodes et après avoir une connaissance quasi encyclopédique de la série, d'être... dans une série dans laquelle le personnage est influencé par Starsky Hutch et dans laquelle à un moment un des personnages de Starsky Hutch peut intervenir directement dans ta série, c'est la boucle est bouclée, quoi.
Ah ben c'est le kiff absolu. C'était la première fois qu'il réendossait les fringues de Guy Le Bon Tuyau, qu'il redevenait ce personnage mythique, la première fois depuis 1979. Et on l'a vraiment fait en sorte qu'il soit dans son jus, physiquement. Antonio, c'est incroyable parce qu'il n'a pas changé.
Il n'a pas changé, tout à fait.
Il n'a pas changé, il a la même énergie, il a cette même démarche si caractéristique. Et puis, c'est un très très grand professionnel et quelqu'un qui est d'une gentillesse absolue.
Alors à cette occasion, j'avais demandé à Antonio Fargas son souvenir de la série et surtout de son producteur Aaron Spelling.
Il n'y avait pas de très bonne relation entre Aaron Spelling, David et Paul. Parce qu'ils luttaient sans cesse, comme tout le monde l'avait fait, pour avoir de bons scénarios et ça marchait. Vous avez besoin d'avoir un producteur à qui parler, ici aussi. Et on a Lionel qui écrit les scénarios. Mais à la base, il y avait Aaron tout en haut et nous tout en bas, dans les tranchées, en train de bosser et de faire la meilleure série possible. Aaron aimait surtout les bons interprètes. Il avait vraiment le truc pour trouver le bon comédien, puis l'envoyer sur la production d'une série, là où il créera des soucis. Des soucis qu'il devra gérer. Les acteurs causent toujours des soucis.
Maintenant, je m'adresse à Lionel. Alors, bon, tu n'es plus Hutch, tu es Lionel, donc toutes ces séries-là, c'est le passé. Pour toi, le présent, c'est une série qui s'appelle Le Code, c'est bien ça ?
C'est bien ça, c'est pour France 2 et nous sommes en plein tournage. Là, je vais y retourner. D'ailleurs, j'y vais dès que nous avons terminé.
Il y a du Starsky Hutch dedans ?
Alors, il n'y a pas de Ford Torino. Il n'y a pas de Ford Torino, il n'y a pas beaucoup de fusillades. D'ailleurs, je ne crois pas qu'il y ait... Très peu. Non, c'est une série judiciaire, en fait, et on est dans... Oui, il y a du Starsky Hutch dans le sens où je crois qu'on a apporté un soin très particulier aux relations qui unissent, en fait, ces personnages. Et en cela, il y a du Starsky Hutch. On est dans... Alors, le code, c'est quoi ? Alors, on va essayer de le résumer. Ce sont les aventures du cabinet d'avocats spécialisé en droit pénal Ayad, Thomas et Vanhoven.
Je vois la référence.
Voilà, hein, petite référence. Trois associés, donc on a Idriss Thomas qui est anciennement avocat des riches, complètement transformé après s'être fait tirer dessus. On a Nadia Ayad qui est une avocate engagée qui veut changer le système. Et on a Jeanne Vanhoven, une ex-gloire du barreau, qui est capable du meilleur, qui est capable du pire aussi en fait, hein, on va tout dire. Et ils ont deux jeunes collaborateurs qui démarrent dans le métier et en fait tous les cinq, ils tentent de venir en aide à ceux que la machine judiciaire veut écraser. Ce qui n'est pas simple parce que tous leurs clients ne sont pas blanc comme neige.
Bah, bien sûr, généralement,
on est toujours
innocent. Et en fait, creuse un peu et c'est pas tout à fait le cas. Et
c'est ça qui est intéressant justement à creuser.
Et ça, c'est donc en cours de tournage.
C'est en cours de tournage, c'est pour France 2, il y a 6 épisodes et on devrait arriver en 2021.
Eh bien, merci Lionel d'avoir partagé ta passion et tes connaissances encyclopédiques de Starsky Hutch. À quand le livre ? Parce que franchement, tout ce que tu nous as raconté, moi en tout cas, je l'attends. Quoi. Je appelle un éditeur, là ça y est, c'est fait, c'est quasiment fait. Voilà, vous avez un auteur pour un livre français sur Starsky Hutch. Alors maintenant, je m'adresse à Hutch. Hutch, maintenant, c'est l'heure. Je te propose de reprendre notre Fort Torino et il faut qu'on aille poursuivre les méchants.
Allez, c'est reparti.
La semaine prochaine, dans Previously, on démarrera une saga immense qui va se conclure très très bientôt. La lutte des frères Winchester contre les démons et contre Dieu. Ni plus ni moins. Mais ce n'est pas ce que vous croyez. Dans le prochain Previously, on explorera le monde de Supernatural. Ce podcast est disponible en avant-première sur l'application Audio Now, puis sur les plateformes Deezer, Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict, Google Podcast, Castbox et Overcast.